Bonjour.
C'est
Gablé
pour
Radio
Alternante.
Ouh.
Sharks, but you're wearing a suit. The suit is made of chicken skin, so you'll survive the shoot. 10 will make you bleed while you build up some speed.
Rencontré à l'occasion du festival Wine Heat, veuillez m'excuser, Wine Not White Heat, qui s'est déroulé en mai dernier à Nantes, Gaël, Thomas et Mathieu nous ont servi quelques mots sur le groupe Gablé, qu'ils forment alors depuis plus d'une décennie, et sur leur nouvel album Jolly Trouble. Vous entendrez ensuite Alex, le programmateur musical du festival White en question, qui a ainsi accueilli pour une deuxième édition musiciens et vignerons. À la vôtre. Gablé, le groupe, existe depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore là ?
C'est un travail de tous les jours. Hein. On essaye de se supporter, voilà. On bosse pour continuer à être ensemble.
Thomas ?
Pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, c'est facile. C'est des gens que j'apprécie, tout simplement.
Gaël ?
Oui, c'est vrai que moi aussi, je vous apprécie. J'ai pas vu les 10 années passer.
Et est-ce que vous réussissez à continuer à faire de la musique sans avoir de compte à rendre? Est-ce que vous réussissez encore à faire de la musique librement? Bon, on l'entend dans l'album, mais dans les faits, concrètement.
J'ai l'impression que ça n'a jamais été totalement facile de faire la musique. C'est un vrai... je crois qu'on s'entraîne, on travaille... J'arrête pas de dire qu'on travaille dur, mais c'est vrai. C'est pas... spontanément, on se retrouve pas tous les trois à juste faire de la musique comme ça. C'est plutôt... je crois que souvent, moi, je fais les structures et puis on trouve les uns les autres des parties, mais il n'y a pas spontanément un vrai truc de musicien. On n'est pas assez bon technicien, je crois.
Thomas ?
Oui, c'est plutôt juste ce que vient de dire Mathieu.
Gaël ?
Oui, c'est assez juste. Et je pense que par contre, on a, je ne sais pas si tu parlais de compte à rendre à des gens, mais on fait la musique qu'on aime comme on l'aime. Et je crois que personne n'a essayé jusque-là de nous orienter vers une voie qui ne nous plaisait pas.
Et comment est-ce qu'il s'est construit le groupe Gablé ? Bon, on vous suit depuis plus de 10 ans, mais comment, on ne sait pas comment il est né, comment il a été conçu, comment la conception s'est faite.
Au début, moi, j'ai fait le projet tout seul parce que j'étais batteur dans un autre groupe de rock que je trouvais finalement un peu bateau. Et je trouvais ça rigolo de faire de la musique dans ma chambre tout seul. Et on s'est rencontrés avec Thomas et Gaël et on trouvait ça cool de faire une musique un peu différente.
Et d'ailleurs, je me souviens très bien, en fait, je vous ai vu pour la première fois sur scène au bar La Place à Caen. Route de la délivrande, et c'était, alors il me semble que Gaël, c'était ta première sur scène, je pense, et voilà, quand vous regardez en arrière, oh là là, mais enfin comment est-ce que vous voyez, enfin comment est-ce que vous appréhendez l'évolution, comment est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans?
Moi je veux pas me demander ce que je vais, ouais, je trouve ça trop dur comme question.
Moi aussi. J'ai eu beaucoup de difficultés à la poser. Mais non, mais c'est parce qu'il y a l'émotion qui est là. Enfin, voilà, on se souvient de...
Je trouve ça hyper difficile de faire un bilan. Et en plus, moi j'espère toujours qu'on va continuer à faire des disques. Ce que j'espère, c'est que ça va être peut-être plus simple que le dernier, là, qui a été particulièrement prenant.
Justement, Jolly Trouble, je suis tellement nulle en anglais que j'allais dire Jolly Trouble en fait. Bon, voilà. Donc c'est le 8e, 9e album de Gablé ?
Je sais plus exactement. Je crois que c'est le 8e, il me semble.
Donc c'est le 8e album. Alors, comment est-ce que vous l'avez imaginé au départ ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez eu d'abord une vision d'ensemble ? Ou alors, est-ce que vous avez composé la musique, chaque titre indépendamment les uns des autres? Comment est-ce que vous l'avez imaginé, cet album, au départ, Thomas?
Moi, je sais que j'avais pas de vision d'ensemble. Je soupçonne Mathieu d'avoir une vision d'ensemble, mais qu'il garde secrète, et peut-être même qu'elle change au fur et à mesure que l'album se fait.
Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on fait tous des morceaux dans n'importe quel sens et qu'après on trouve un sens en enlevant. Je trouve ça plus facile de me dire « Oh, on a fait un truc cohérent », alors que quand on fait les morceaux, il n'y a rien de vraiment calculé. C'est plutôt des bouts de morceaux qu'on assemble, qu'on colle, qu'on recolle, et les morceaux s'arrêtent quand on est content du résultat et l'album s'arrête quand on est content de l'ensemble des morceaux.
Et donc ce nouvel album, Jolly Trouble, donc il est beaucoup plus lumineux que Murdered, celui d'avant. Je prononce bien Murdered parce que je suis nul en anglais. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez pris un virage. Enfin, est-ce que vous assumez un virage plus? Est-ce qu'on peut dire que vous assumez quelque chose de plus pop? De moins folk?
Moi, j'assume. En tout cas, clairement, c'était une année de merde l'année dernière, là. Et quand on a fait Murdered, j'avais l'impression que c'était plutôt une année chouette. Du coup, besoin de faire un album peut-être sombre pour rééquilibrer. Et là, c'était l'inverse. Une année pas forcément hyper pop. Et du coup, on avait commencé à faire un album plutôt sombre. Et avec l'année passée, c'était bien de changer de cap et de faire un truc plus joyeux, faussement joyeux.
Il y a beaucoup d'électro aussi. Donc du coup, quand vous composez, etc., est-ce que vous êtes hyper imprégné de ce que vous écoutez? Parce que vous êtes aussi, vous allez à pas mal de concerts, etc. Enfin voilà, est-ce que ça aussi, enfin l'électro qui est en tout cas plus présent. Il a toujours été plus ou moins présent, mais là, il est affirmé aussi. Est-ce que ça dépend de ce que vous écoutez, Thomas, Mathieu, Gaël?
Vas-y.
Bah oui, forcément. Je sais pas si c'est hyper. Si on se dit on va faire un morceau en pensant à telle ou telle chose. Enfin, moi, c'est pas mon cas en tout cas. Mais forcément, oui, on est poreux.
Et ah d'accord. Oui. Et il est où l'aspirateur?
Ben, il a disparu parce que, comme le cajot est en train de disparaître, parce que ça devenait un truc un peu trop facile. Et comme nous, on n'aime pas la facilité, ben, on s'est dit que ça serait bien de pas être assimilé que à des objets comme ça.
Up my
Et donc vous êtes un trio, vous bossez ensemble, mais il y a eu pas mal de potes qui ont participé, voilà, à l'album, que ce soit dans musicalement, dans sa conception, etc., etc. Pouvez-vous nous parler de ces gens, Gaëlle?
Oui, on peut parler de ces gens. Il y a eu JB de Pneu, qui est un super batteur. Et ça a été assez difficile pour nous de rejouer ses parties batterie une fois qu'il n'était plus là. Il y a eu Samuel Frein au saxo, qui a apporté vraiment beaucoup au morceau et à l'album. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Manu Dupont, qui a fait de la basse. Il y en a eu Thomas, d'autres noms, je crois, à donner.
Thomas?
Ah, moi, je pensais juste à Nicolas Marsan. Voilà.
Et moi, je pense aussi à Funken, Julien Funken et Fab des Macedo qui ont mixé l'album et qui ont presque réalisé l'album parce qu'ils se sont permis de découper, de virer des batteries, des choses qu'on avait faites nous. Et c'était la première fois qu'on confiait notre disque à des gens qu'on connaissait pas beaucoup. Et ça a été une super expérience parce qu'ils ont clairement éclairci, je sais pas si c'est un bon mot, mais l'album, ils avaient le fait d'écouter le disque, ils l'ont eu, je pense, un mois dans les pattes, alors que nous, on a bossé dessus 8 mois. C'était hyper cool d'avoir une lecture plus spontanée et ils ont trouvé des idées que nous, on n'avait pas, qu'on donnait vachement d'une forme de simplicité au disque. Peut-être ça a aidé à le rendre plus pop et ça, je trouve ça chouette.
Et comment est-ce que vous répartissez le rôle pendant la conception de l'album? Est-ce que il y en a un qui écrit qui est-ce qui écrit les textes? C'est Thomas.
Là, c'était plus moi, ouais. Mais ça bouge souvent aussi. Il faut que ça puisse rentrer dans les formats des morceaux. Du coup, on corrige. Du coup, on revoit tout à plusieurs.
D'accord. Gaël, comment bossez beaucoup à la maison?
Ouais, on bosse à la maison. Je crois que l'équilibre se fait. On a tous les trois besoin de tous les trois. Et par contre, moi, je crois que étant mon projet à l'origine, je suis souvent à l'origine des morceaux au niveau de la musique. En même temps, Thomas a composé des choses. Gaël, toi, t'avais essayé aussi de composer des trucs. Ouais, en fait, il y a pas un sens précis, mais le résultat, c'est quand même principalement, j'ai l'impression de faire l'ossature. Thomas peut-être les textes et Gaël plus des couleurs, à amener des couleurs avec plein de petites bidouilles plus fraîches.
Et Jolly Trouble, donc tu parlais tout à l'heure que il a été composé, enfin c'est un album faussement joyeux, tu disais, et en fait Gablé, enfin si on pouvait résumer Gablé, en fait il y a cette douceur donc qui se caractérise notamment par vos voix, par voilà ce côté joyeux, etc. Et en même temps quand vous êtes sur scène, vous la retournez, la scène. C'est-à-dire, vous êtes assez punk. Est-ce que cet album aussi, il allie bien, comment il se traduit sur scène? Est-ce que vous, ce soir, sur la scène de la Maison de Quartier de Doulon, vous allez retourner la scène à 23h45? Gaëlle.
J'espère bien. J'y compte bien. Je pense que oui, je sais pas, j'ai du mal, moi, à avoir le recul là-dessus. On a fait déjà quelques concerts, là, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'on nous retrouvait, qu'effectivement les morceaux étaient différents, mais qu'on retrouvait bien ce qu'on avait proposé sur scène jusque-là. Donc je pense qu'on va encore retourner tout ça.
Ce que je pense, c'est que au-delà de retourner la scène, on est déjà en train d'essayer de retourner le disque. À savoir, pour nous, c'est hyper important de s'en foutre de pas essayer de copier le disque sur scène, parce que c'est pas du tout l'intérêt pour nous d'essayer de reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Donc, on est déjà en train de refaire des versions pour la scène, parce que justement quand on parlait de JB à la batterie où c'est pas possible parce qu'il est 1000 fois plus doué que nous à la batterie, et ben plutôt que d'essayer de copier quelque chose qu'on va forcément moins bien faire, on essaye de proposer une autre lecture du morceau. Donc je sais que là il y a des choses très électriques sur disque qui sont acoustiques sur scène et inversement. Et ça, c'est un petit truc qu'on a trouvé et qui nous satisfont bien.
Et justement, par rapport aux dates de concert, donc vous tournez en France, là vous allez avoir quelques dates en France, et vous allez aussi à l'étranger, donc en Suisse, et vous allez aller jusqu'en Russie, et vous avez été en Islande, et comment est-ce que ces publics, enfin la Russie, vous y avez jamais été ? Si ? Oh là là ! Donc justement, ça tombe bien, comment est-ce que le public réceptionne Gablé ? Comment est-ce que c'est différent en Suisse qu'à Moscou ou à Reykjavik?
Moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris comment ils avaient reçu le truc parce que je comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Mais j'avais l'impression quand même que c'était pas un genre de concert qu'ils avaient déjà vu. Et juste ça, moi, cette idée-là, ça me ravit.
Il y a le truc de chanter en anglais aussi, ça aide. C'est par rapport à la France, où j'ai l'impression qu'en France, les gens sont plus friands du côté bidouille de musique. En Angleterre, en tout cas, tous les textes, j'avais l'impression que faisaient vachement plus écho.
Les réactions du public se font pas au même moment en France et en Angleterre. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est plus des réactions aux textes qu'il n'y a pas en France. En France, c'est plus sur des attitudes ou des moments de musique.
Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Gablé ?
Je trouverais ça sympa que tu rappelles le nom du festival.
Mais écoute, avec plaisir. C'est le festival Wine Nat White Heat. Merci beaucoup les Gablés.
Merci.
Bonjour Alex.
Bonjour.
Alors, le Wine Nat Wine Heat Festival, est-ce que je le dis bien ? Non, pas du tout.
Wine Nat White Heat.
En plus, il est écrit. Hein. Donc, le Wine Nat Wine White Heat, c'est dur. Donc, c'est un festival qui assemble donc, musique indépendante et des vignerons. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer cette initiative originale ?
Alors rapidement, le nom Wine Nat White Heat, vient d'un album du Velvet Underground qui s'appelait White Light White Heat. Donc on a fait un petit jeu de mots, puis voilà, on adore le groupe, donc c'était une symbolique assez intéressante à nos yeux. On écoute tous de la musique indépendante de longue date, des petits groupes, enfin voilà, des choses, on va dire entre guillemets moins commerciales que ce qu'on peut voir entendre sur les grandes ondes ou tout ça, pas de la variété en gros quoi. Et on est tous amateurs de vin naturel, et en gros, on va dire très vulgairement, on est marre de boire des bières pas cool dans des festivals ou dans des salles de concert que l'on fréquente régulièrement. Et on s'est dit pourquoi pas proposer du vin naturel à tarif raisonnable, je crois que ça l'est encore chez nous, et voir comment les gens réagissent quoi. Et on s'est décidé aussi à faire un petit salon de vignerons, quitte à avoir le vin des vignerons, autant les présenter également, même titre que les artistes. Et semblerait, je crois que tout le monde est là pour en attester, que ça fonctionne assez correctement, enfin voilà, dans des proportions raisonnables aussi, mais ça marche bien, les gens sont contents, les vignerons aussi, donc c'est plutôt cool.
Alors justement, pour citer des noms en groupe, donc ce soir en tout cas, ce samedi 14 mai, il y aura les Housewives, les Gablés, Laetitia Sheriff, et aussi en vigneron, donc il y a là les vins de Pierre Borel, donc Bourgueil, Julien Brault, Baptiste Pouzin. Comment est-ce que vous avez, enfin est-ce que c'était des personnes que tu connaissais personnellement? Comment est-ce que les contacts se sont liés? Comment est-ce que tu as créé aussi ta programmation musicale? Tout comme comment est-ce que tu as créé ta programmation viticole?
Alors, pour resituer les choses, on est deux à programmer. Moi, je programme toute la partie musicale. Jérôme Todon programme, entre guillemets, programme la partie... non, même pas de guillemets. D'ailleurs, il programme la partie viticole, effectivement. C'est purement arbitraire. Savoir que, voilà, on a fait... Moi, j'ai choisi des groupes en fonction de leur disponibilité, en fonction de ce qu'on avait envie d'écouter aussi, de ce qu'on écoute en ce moment, en fonction des moyens aussi, parce que voilà, c'est un festival qui, mine de rien, coûte un peu cher, enfin pas très cher, mais bon, il n'y a aucune subvention, tout est 100% autofinancé, donc à un moment, on doit aussi être raisonnable. On n'est jamais assuré du succès, ça reste la deuxième année d'existence du festival, donc voilà, on était un peu en déficit l'année dernière, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, la programmation s'est faite sur cette base, avec des groupes qu'on adore, Michel Clou notamment, Gabelé ce soir, Sarah Neufeld, d'Arcade Fire, enfin voilà, on a réussi à avoir des noms vraiment super intéressants. Et tout ce qui concerne les vignerons, c'est donc Jérôme qui a géré ça, et j'ai envie de dire qu'il l'a fait un peu de la même manière. Il adore le vin, il en boit régulièrement, pas trop j'espère, hein. Mais si, quand même, soyons honnêtes. Et il a réussi à trouver des gens qui étaient, enfin, qui l'aiment vraiment en termes de création gustative, disons, et qui ont accepté de venir, voilà, que faire quelques dizaines, centaines de kilomètres pour cette initiative qui est pour eux assez originale, pour nous aussi. Enfin voilà, on est peu à le faire en France. Ça va se développer, ça existe déjà. On n'est pas les seuls, mais il n'y a pas beaucoup. Donc voilà, ça s'est fait de façon assez simple en fait. C'est juste une aventure de potes. On met nos goûts sur la table, on les défend et on demande aux gens d'adhérer ou pas. Voilà.
Et d'ailleurs, les liens, ils se font assez naturellement. C'est-à-dire qu'on voit là les musiciens, là, on les voit, les groupes, créer des liens avec les vignerons. C'était ça aussi, c'est de se caler musique, vin.
Ben nous, on aime les rencontres. On aime bien que les gens se mélangent un peu. Enfin, même si, bon, voilà, il y a aussi des milieux qui sont, malgré eux, un peu sectaires parfois. Ça peut être un peu le cas du vinat, ça peut être le cas de la musique aussi. Voilà, il y a un côté un peu arty parfois. Tout dépend du regard qu'on porte à tout ça. Nous, on essaie de décloisonner tout ça parce qu'effectivement, ben voilà, on aime le vin. On va dans des caves, on va dans des endroits où il y a ça. Tout le monde, tous les gens qui boivent du vin naturel n'écoutent pas nos musiques. Donc, on est confronté à des populations larges et variées et ça nous plaît. Mais par contre, dans le milieu de la musique, beaucoup de gens boivent aussi du vin naturel. Ça, c'est une évidence. Dans les bars, tout ça, le vin naturel prend une dimension qui reste restreinte pour l'instant. Mais voilà, ça commence à grimper un peu en France. Donc voilà, on a voulu saisir cette occasion pour mélanger tout ça, faire en sorte que les gens se rencontrent. Ça donne un résultat assez drôle. Des vignerons découvrent des concerts qu'ils ne voient jamais, ils découvrent l'envers du décor, ils s'y intéressent, ils trouvent ça sympa. Enfin voilà, il y a une ambiance qui est assez cool. À l'inverse, les artistes arrivent, ils découvrent des choses en vin qu'ils ne connaissent pas, surtout en France forcément. Voilà, il y a un espèce de mélange des genres assez drôle. J'ai vu une personne tout à l'heure, voilà, qui a l'air d'avoir 45-50 ans, qui est venu juste pour le vin et qui a découvert plein de groupes qu'il adore et qui fait tous les soirs. Voilà, et on l'a vu tout à l'heure, il prenait ses petites caisses de vin, il était hyper content. C'est une personne, bah voilà, je repère pas tout le monde dans les nombreux concerts qu'on organise, mais là, je crois que je l'avais jamais vu. Et là, il vient de découvrir un truc qui le ravit, donc c'est assez génial. J'espère que c'est pas le seul, mais beaucoup de gens ont l'air satisfaits en tout cas.
Et justement, ça se passe bien avec les artistes sur scène, après un petit coup de vin, il n'y a pas de...
Non, non, au contraire, on a justement un groupe qui joue ce soir qui s'appelle White Wine, qu'on a déjà fait jouer il y a quelques temps, et on a découvert que ce nom venait de son amour du vin blanc. Il adore le vin blanc, il ne boit pas de rouge, que du blanc, parce que ça lui donne du peps, ça l'énerve, et c'est, enfin, ça l'énerve dans le bon sens du terme avant d'aller sur scène. Et il s'appelait Vin Blanc White Wine avant, il ne s'appelle plus que White Wine. Donc le faire venir dans un festival comme ça, c'était pour nous une évidence. Et il est ravi, il fait des dégustations, il est à fond. Et non, tous les autres, les Gablés sont arrivés, ils ont été déguster des choses, ils aiment le vin naturel aussi. Non, ça se passe vraiment très bien. Et les gens qui passent, enfin les groupes qui passent sur scène, on parle de l'initiative, c'était le cas hier, par Michel Clou, lui aussi amateur de vin. Voilà, c'est... Ça donne une couleur un peu différente. Une autre idée de l'organisation et des concerts en général. On n'est pas juste sur rock'n'roll et bière, même si j'aime rock'n'roll et bière, mais parfois c'est bien de changer.
Always fell, but wherever there's fire. taste of hell. Suffice it to say, the day is near when calamity reigns and breeds a fear, making all our mistakes and all those fears seem pathetic and yet seem oh so dear.
Deuxième édition du festival. Donc l'année dernière, donc vous avez essuyé les plâtres. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première édition, donc 2015, et pour préparer cette seconde édition, parce que vous êtes un jeune festival et vous prenez en quelque sorte des risques.
Qu'est-ce qu'on a retenu ? On a voulu changer de lieu. Les ateliers de beach, c'est un endroit super sympa. Mais on a voulu trouver un endroit un petit peu plus grand, non pas qu'on ait une volonté de grossir à tout prix, c'est juste qu'on était un peu à l'étroit, on a refusé un peu de monde, donc il nous fallait une salle d'environ 300-400, bon, la maison de quartier c'est 500, mais l'espace est bien adapté. Il fallait quelque chose de plus confortable d'un point de vue technique aussi, puisque bon, le jeudi, l'année dernière, on a failli mourir, enfin, on a bossé à fond, on a tous des activités personnelles aussi, évidemment. Et voilà, là, pour des raisons là encore d'activité professionnelle, c'est personnel et professionnel, cette année on pouvait pas donner plus de temps que ça au festival, donc on ne fait 4 jours au lieu de 3 pour autant, mais dans des conditions de travail qui sont autres, qui sont plus confortables pour nous. On regrette évidemment le fait de ne pas être chez Beach, mais là on était obligé de travailler dans d'autres conditions. Puis après, ce qu'on a retenu, c'est les choses positives qu'on a envie d'amplifier, c'est un peu plus de groupes, un peu plus de vignerons, faire grossir la chose, mais modérément, en fonction de nos capacités physiques, parce qu'on reste pas beaucoup en organisation à l'année. Il y a plein de bénévoles, par contre, qui sont ravis, qui adorent l'initiative, mais voilà, on reste un petit noyau à l'année, et ça nous prend quand même pas mal de temps, donc voilà, on essaie de s'organiser, tant bien que mal.
Tout à l'heure, tu disais que vous étiez, enfin, que le festival fonctionnait en autofinancement. Est-ce que c'est volontaire, ou alors est-ce que, voilà, les institutions, les partenariats privés sont pas encore là?
Non, c'est volontaire. Alors c'est Jean-Marc Laurent qui est le propriétaire du café Madame Rêve près de Commerce, qui est à l'initiative. C'est lui qui est venu nous chercher avec. Enfin, on se connaît depuis très longtemps, mais il est venu nous chercher, Jérôme et moi, pour ça. Donc c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre financier de l'initiative. Et lui n'a pas envie de demander de subvention pour des raisons de liberté, de ton. Enfin, non pas qu'il déteste pas les politiques ni les subventions, il considère que c'est pas nécessaire dans ce type d'organisation. Donc c'est son choix. Nous, après, derrière, on travaille avec. On cherche pas de partenariat privé parce qu'on n'a pas le temps. Puis je crois que sur ce festival-là, on est assez nul en fait. On prend pas le temps. Puis on se débrouille sans. Puis voilà quoi. Après, ça va rentabiliser un jour, j'espère. Enfin, quand je parle de rentabilité, c'est pas l'idée, c'est d'atteindre l'équilibre. C'est ça l'objectif. On n'est pas sur d'énormes pertes. On espère les éviter forcément tous les ans. Mais ça reste supportable. Donc on va continuer. On va se battre.
Et tu parlais, donc dernière question, tu parlais du public tout à l'heure. Donc ici, on est dans la maison de quartier de Doulon, donc dans un quartier nantais. Quel est le public qui fréquente ce festival ? Donc vous devez connaître, donc vous devez en connaître une certaine partie. Mais est-ce que justement, il y a des gens du quartier qui viennent, que vous avez vus au festival ? Comment ?
Alors justement, alors notre venue à la maison de quartier de Dolan, elle est assez historique, enfin elle est assez particulière. Moi, j'ai organisé plein de concerts ici. Mes premiers concerts, c'était ici en organisation. Donc, on a fait de la musique ici aussi. Enfin bref, il y a toute une histoire autour de cette salle qui est malheureusement pas assez utilisée, qui est un super outil, c'est hyper chouette. Voilà, ça a l'air vieillot pour des gens, mais non, c'est super bien entretenu. C'est une salle qui a vraiment de la gueule, je trouve, à Nantes, qui mériterait beaucoup plus. Je dis pas mieux parce qu'il se passe aussi déjà de très belles choses, mais plus, je crois, je pense. Et voilà, alors il y a des gens qui ont gueulé, évidemment, c'est trop loin du centre et tout, enfin on sait que le Nantais, j'ose le dire, le Nantais est feignant parfois, sortir du centre c'est pas possible pour beaucoup de gens. Bon, on en a discuté ensemble, on s'est dit bon bah voilà, tant pis, on s'en fout, on fait ça, si les gens veulent venir ils viennent, s'ils viennent pas tant pis, enfin voilà, on va pas les tirer par le col, nous on le fait, on a envie de le faire, d'autres pas, c'est comme ça. Donc on avait d'abord envie de venir dans cette salle pour ses capacités, tout ça. Et on a travaillé aussi avec Nicolas Tourneau, un des responsables de la maison de quartier. On essaie de faire des choses un peu originales en termes de communication. Donc on a fait venir une personne spécialisée en vin naturel, qui est aussi bénévole, qui a proposé des petites dégustations tout à l'heure, une présentation à des personnes du quartier, des utilisateurs de la maison de quartier. Une présentation du vin naturel, des particularités, tout ça. On essaie de travailler modestement, mais un peu en socio-cul aussi avec la maison de quartier. Et puis oui, il y a des gens du quartier qui viennent pour le salon, il y a des gens qui sont venus hier soir aussi, des jeunes qui découvrent. On n'est pas dans des quantités incroyables, mais ça se fait aussi petit à petit, et voilà. L'objectif, c'est que les gens découvrent, pas que dans le centre, un peu ailleurs. Voilà, de toute façon, on peut pas tout faire dans le centre, on n'a pas de salle de cette capacité, on a envie de faire ça ailleurs, c'est accessible, il y a des trams, on peut venir en vélo, c'est 20 minutes en vélo, 25, bon, un peu plus en rentrant, j'avoue. Mais n'en parlons plus. Mais non, tout ça c'est accessible. Voilà. Après, on fait nos choix ici. Et puis moi, j'adore la salle, tout simplement. Ça reste hyper arbitraire.
Mais c'est vrai que c'est une chouette salle. Justement, alors je disais que c'était ma dernière question, mais non. Comment est-ce que tu imagines le festival pour la suite ? Est-ce que vous avez aussi imaginé décliner le festival sur le long de l'année, par exemple, peut-être, je sais pas, au niveau des vendanges, enfin, au moment des vendanges en septembre, est-ce que vous avez imaginé quelque chose, avec cette idée qui est vraiment plutôt pas mal?
Alors, on a essayé l'année dernière, on voulait faire un Why Not Wait It hiver, pour s'éclater, en gros, quoi. Et je ne sais plus où on voulait le faire, mais on a oublié le truc pour des raisons vraiment purement personnelles, on n'avait pas le temps. Parce que moi je travaille beaucoup à la rentrée, enfin on travaille tous beaucoup à la rentrée. Et là on s'est dit que bon, on n'y arriverait pas, quoi. Donc on a abandonné l'idée, par contre ça, c'est toujours en tête. Là hasardeusement on va organiser un concert en novembre, le 3 novembre, au lieu unique, voilà, avec plusieurs super groupes. Et on s'est dit pourquoi pas, on va vendre du vin nat, comme d'hab. Est-ce qu'on estampille Why Not Wait It, est-ce qu'on fait deux jours? On va en parler. Bon, j'avoue, je l'aurais pas encore proposé aux collègues, mais je vais leur dire. On va peut-être pouvoir essayer de faire ça. Voilà, bifurquer. Mais en tout cas, oui, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Alors, petit à petit, en fonction des disponibilités des gens. Mais une version hiver, se baser en tout cas là-dessus, ça pourrait être sympa. À minima hiver, après on verra.
Merci beaucoup, Alex.
Merci à vous.
C'était Alex et les Gablés depuis le festival Why Not What Hit, dont vous pourrez retrouver la 3e édition l'année prochaine en espérant que la route leur soit longue. Sur le chemin, vous pouvez également trouver le dernier album des Gablés, Jolly Trouble, et tomber sur eux si vous allez jusqu'à Saint-Pétersbourg début juillet. Merci de votre écoute et à bientôt sur Alternante.
fly and sing in the stone where off wind, in the stone where off wind.